bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadour-Boudadi, Frédéric Sigrist, Albert Algour, Tanguy Passuro sera là tout à l'heure, Daniel Morin est déjà là, Mort Chiba sera en live et notre invité Monsieur Sylvain Tesson. Bravo. Je suis ravi de vous accueillir pour cette première fois. C'est la première fois que vous venez dans la bande originale, Sylvain. J'espère que ça ne sera pas la dernière. Vous venez de publier... Vous allez bien d'abord, la première question?
Ah, très bien. Non,
c'est,
vous-même.
C'est essentiel. Pas mal. Finalement, pas mal.
Bon, bien, écoutez, c'est le principal.
Il nous manque un peu le soleil, sur Paris en tout cas, mais pas mal. Et je pense au soleil d'ailleurs, parce que dans votre livre Un été avec Homer, le soleil et la lumière sont des éléments extrêmement importants. Les éléments naturels, d'ailleurs, globalement, sont importants. Vous avez écrit ce livre dans des conditions idylliques, puisque vous étiez en Grèce. Or, visiblement, c'était pas non plus un 5 étoiles, d'après ce que vous racontez.
Je pense que Sylvain Tesson, on descend rarement dans des 5 étoiles.
Non, c'est un pigeonnier sur une île des Cyclades qui s'appelle l'île de Tinos. Ouais.
Et vous avez besoin d'être sur place, entre guillemets, pour ressentir, revivre ce que Homère, le poète, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on l'appelle, a pu ressentir.
Oui, il me semblait que, enfin, quand on ouvre l'Iliade et l'Odyssée, on a tellement l'impression de recevoir les paquets d'embrun dans la figure et la lumière du soleil grec, qu'il semblerait que Homère ait écrit, bien que il était aveugle. On sait qu'il était aveugle, mais on a l'impression qu'il a tellement...
Les aveugles ressentent la lumière, voilà. Et la chaleur.
Il a tellement perçu toute la splendeur de cette géographie qu'elle transparaît complètement dans ses poèmes. Alors je me suis dit, quitte à écrire un commentaire de l'Iliade et de l'Odyssée, autant être... In situ.
Alors, le commentaire va plus loin, et là je vais m'adresser à notre ex-professeur de français qui a travaillé sur l'Iliade. T'as travaillé sur les deux d'ailleurs, ou que sur l'Iliade?
J'ai traduit une grande partie de l'Odyssée.
D'accord.
En fait,
voilà. Comme il y a des extraits, des traductions bleutées, bleu méditerranée dans votre livre, pour qu'on ait aussi la référence de cette œuvre qui a des milliers d'années, mais dans lesquelles vous allez chercher des rebondissements ou des lectures ou des compréhensions du monde actuel. Et je pense, tout le monde se souvient, tout le monde n'a pas en tête les lectures qu'il a pu subir à l'école d'Homère, puisque à l'époque on subissait, mais là c'est un plaisir qu'on peut redécouvrir. C'est quand même un peu comme Proust, hein. Quand on est adulte, on peut les relire avec plaisir, alors que c'était un vrai boulet quand on était à l'école.
Ça dépend des profs, hein, oui. Mais... Ça dépend des profs.
Ouais, quand même, c'est
extraits.
Pas... Franchement, Proust,
non, mais
Proust
c'est
quand t'es gamin,
ça,
c'est pas évident.
Oui, ouais. Mais il est rarement au programme, de toute façon, Proust, avant la...
Au lycée, rarement.
Ouais. Bon, revenons à Homère et aux sirènes, oui. Par exemple. Bon, tout le monde connaît les tentations des sirènes, le danger, la manière dont Ulysse a pu s'en défaire. Vous voyez, c'est là où je prends cet exemple-là, parce que c'est vraiment le pont qu'il y a entre notre monde actuel, moderne, et ce qui a pu se passer il y a des milliers d'années. Vous prenez cette image-là, le sens de la poésie, comme le côté Big Brother, le cloud, le nuage, Internet et les caméras qui nous surveillent.
Oui, c'est-à-dire que les sirènes, on les prend parce qu'il y a eu ensuite des traditions littéraires qui ont suivi l'Odyssée. On les prend pour des femmes ensorcelantes qui viendraient pervertir la pureté originelle de l'homme en le dévoyant de sa course, quoi. C'est ça, aujourd'hui, la sirène. C'est à ça qu'on l'associe, quoi.
Alors que ce sont des volatiles, déjà.
Alors que d'abord, ce sont des volatiles elles descendent du ciel dans l'Odyssée. Et puis, elles disent cette phrase incroyable. Elles disent, nous sommes au courant de tous vos faits et gestes. Or, qui est aujourd'hui au courant de tous nos faits et gestes?
Google.
Ben, c'est Google, quoi. C'est le Big Brother. C'est les GAFA qui savent tout ce que nous faisons. Donc, Homer avait eu la prescience de ce monde où un jour nous serions observés.
C'est espionnés. Comme les lotophages et cette fameuse fleur de loto, voilà, qui anesthésie, la volonté, qui détruit la conscience. Là aussi, vous faites un parallèle avec les réseaux sociaux et les GAFA, en fait.
Oui, parce qu'en fait, la grande idée dans l'Iliade comme dans l'Odyssée, c'est d'aller vers son but, d'essayer de retrouver. Pour Ulysse, son palais, l'amour de sa femme fidèle. Enfin, c'est de toujours.
Dites pas ça sur ce ton-là.
Parce que lui, il est témoin.
Lui, il avait l'occasion de passer quelques années avec des nymphettes extraordinaires sur des plages de sable blanc.
C'est pas de sa faute, s'il a été ballotté.
Oui, enfin, que voulez-vous? Qui aurait renaclé à passer quelques années avec Greta Garbo sous les cocotiers?
Ce que j'adore, oui. Enfin, ça dépend à quel moment, Greta Garbo. Ce que j'adore, c'est quand Sylvain Tesson dit, aujourd'hui, donc Ulysse raconte ce qu'il a vécu en disant, voilà, toutes mes aventures, et Pénélope, qui l'a attendu et qui a repoussé d'ailleurs.
Les prétendants.
Tous les prétendants qui voulaient non seulement le pouvoir, mais aussi son amour, donc, et qui a défait sa toile, on connaît l'histoire. Vous dites, qui aujourd'hui pourrait croire un mari qui rentre d'un voyage, quelle que soit la durée de ce voyage, en disant, écoute, j'ai été occupé, là, j'ai croisé un cyclope, j'avais du boulot, mais crois-moi, tout va bien, et je veux ton amour. Et,
au bout de 20 ans.
Hein. Et mon amour. Après, la durée du temps n'a pas la même notion, la communication n'a pas la même notion.
Oui, parce que quand il revient après 10 ans de guerre de Troie et 10 ans d'aventure, elle lui en veut pas du tout, en fait. Et il repasse une nuit extraordinaire. Le temps, heureusement, a eu à peine de prise sur eux. Et ils se retrouvent comme au tout premier moment de leur idylle. C'est assez magnifique. Ils passent une nuit où ils lui racontent et elle lui en veut pas. Excuse-moi, chérie, j'ai été retenu par un cyclope, quoi. C'est comme si vous disiez ça en guise d'excuse.
Mais peut-être que Pénélope aussi a omis de dire certaines choses à Ulysse.
C'est possible.
Si je fais l'exégète, moi aussi, du texte. Parce que c'est l'intérêt de l'Iliade et l'Odyssée. Ce sont des textes déjà merveilleux. On n'a pas parlé de leur beauté. C'est une des plus belles choses au monde. Et quand en plus on peut l'entendre en grec ancien avec le style formulaire, la scansion, c'est une vraie mélodie, la langue grecque.
Moi je préfère en grec aussi.
C'est très mélodieux en fait, et ça vient accompagner la beauté de ce texte et l'universalité de ce texte. Et ce qui est très touchant, c'est qu'on relit toujours l'Iliade et l'Odyssée à l'aune de son époque. Ça a été fait par le passé.
À l'aune de son époque et à l'aune de ses propres considérations et de ses propres tourments. C'est la merveille de ce livre, c'est que c'est à la fois un œil qui vous permet de comprendre les événements de ce que vous vivez, quel que soit le siècle, et c'est en même temps un miroir qui vous renvoie vos problèmes, vos tourments, vos interrogations, et qui vous enseigne. C'est pour ça d'ailleurs que depuis 2500 ans, il y a cette masse extraordinaire de commentaires, d'analyses, d'exégètes, qui intimident un peu quand on commence à ouvrir le poème en se disant qu'on va apporter son minuscule gravillon à l'Himalaya de commentaires et de textes et d'analyses sur le texte. C'est un exercice qui est un peu saisissant.
Alors l'analyse va aussi dans le regard que l'on a sur la planète. On se dit que les problèmes écologiques que l'on connaît, apparemment vous êtes profondément touché par ces problèmes-là et au mal que l'on fait à notre planète. Même Homer aussi, dans sa manière de raconter le déchaînement de la nature, vous dites, on retrouve ça, on retrouve les tempêtes, l'eau qui reprend le pouvoir, le vent qui vient tout balayer, et que le mal qu'on en est en train de faire, que la modernisation ou le surconsumérisme nous pousse à avoir, ça va nous revenir en plein visage.
Oui, c'est-à-dire que Homère ne se fait pas le critique des affronts que l'humanité fait subir à l'écologie, mais on peut lire à travers les textes de l'Iliade et de l'Odyssée, on peut lire les préoccupations que nous avons pour la destruction des grands équilibres naturels. Et notamment lorsque Achille, dans l'Iliade, rentre dans une colère furieuse qui dépasse absolument toutes les bornes. Et c'est d'ailleurs le sujet de l'Iliade, c'est la colère d'Achille. Et à ce moment-là, les dieux sont dégoûtés. Le cosmos entier rejette la folie de l'homme. Et on peut tout à fait faire une analogie avec notre propre folie, notre propre démesure, puisque c'est la grande préoccupation antique que d'affirmer que l'homme doit absolument rester dans les cadres de l'équilibre et de la mesure.
Alors une espèce de vision, de prémonition de tout ce qui va se passer sur notre planète, pour vous, sous la plume d'Homère, ou simplement il a extrêmement bien compris et analysé la nature humaine, qui finalement, malgré les milliers d'années, sera toujours la même?
Oui, il y a les deux choses, c'est que l'homme a pas changé, quoi, en fait. On s'est parfait, on ne se refait pas, hélas. On est toujours le même. Alors, évidemment, il y en a qui sont merveilleux, il y a la grandeur, et puis il y a la servitude, il y a la médiocrité, il y a le sublime chez l'homme.
Mais vous dites que tout est remarquable, d'ailleurs, que ce soit le beau comme, le bien comme le mal, que ce soit la guerre comme la paix, que vous prenez vraiment toutes ces idées opposées en disant, mais il y a chaque fois une part de magie, une part de sublime, même dans le plus horrible. possible.
Oui, ça c'est une grande idée, c'est une position antique et païenne de dire que tout ce qui se dévoile devant nos yeux est beau et qu'il faut savoir se contenter du monde. C'est la grande force, c'est la grande capacité de l'homme antique et du grec en particulier, à accepter le monde, à consentir au monde et à se contenter du monde. C'est-à-dire à ne pas aller rechercher dans des illusions, dans des spéculations, dans des espoirs, dans l'attente de vie éternelle, à rechercher des consolations. Non, vous avez le monde avec sa violence, avec sa beauté, avec son chatoiement, avec ses bêtes, avec ses plantes, avec ses formes du relief, avec ses formes, avec ses mouvements climatiques, avec les hommes qui se battent ou qui s'aiment.
Avec la nature, vous dites, ce qui est planté ne ment pas.
Oui, par exemple, absolument, les arbres dans Ulysse sont très importants. C'est par l'arbre qu'il va reconquérir la fidélité de Pénélope, ouais. Puisqu'elle le soumet à une épreuve. Alors, je vous épargne les détails parce que c'est une histoire un peu technique, mais elle le soumet à l'épreuve de la reconnaissance de son lit, dont l'un des pieds est constitué par un olivier. Mmh. Donc, l'arbre est quelque chose d'important chez le grec. Tout ce qui se dévoile est beau. Ça, c'est Priam qui dit ça un jour sur les remparts de Troie. Et quand on sait pénétré de cette idée-là, le monde vous apparaît beaucoup plus vivable, parce qu'il suffit d'ouvrir les yeux et d'accueillir le chatoiement où qu'il se situe.
Ça va plus loin même, tout ce qui est beau est bon. Kalos Kagathos, quoi.
Kalos Kagathos.
C'est l'association, si on a une belle enveloppe, on est un personnage qui est bon. C'est aussi, ça peut être très déroutant aujourd'hui, alors qu'on est en train de prôner plutôt la beauté intérieure et de dire que l'enveloppe physique n'est pas si primordiale que ça.
Oui, il y a la beauté du corps du héros grec est un sublime don qui arrache à la fois le pardon, la rémission et qui est un chemin, une conduite vers la vertu.
Vous croyez en Dieu, Sylvain Tesson ?
Non, pas du tout. Je m'intéresse beaucoup. À chaque fois que je vois quelqu'un qui lève ses yeux vers le ciel et qui essaye de se dire qu'il y a quelque chose au-delà des nuages. Mais moi, je ne vois rien d'autre que des oiseaux qui volent. Alors je crois beaucoup au vol des oiseaux, mais pas du tout à une présence au-dessus d'eux.
Même pas Zeus.
Non, enfin, je crois au soleil. Si jamais un jour j'avais tout d'un coup en moi une espèce de saisissement de croyant, je m'inclinerais devant le soleil, je ferais comme les Égyptiens, parce que le soleil donne la vie à la moindre bactérie, comme aux plus belles des baleines, et de temps en temps, je prie le soleil, c'est-à-dire que je m'allonge sur une plage pour faire bronzette, ce qui est une forme de liturgie.
Ça va pas, mais j'aurais jamais imaginé ça.
Je savais que j'étais croyant.
Sylvain Tesson signe donc un été avec Homer, l'occasion aussi de parler de ceux qui courent après la notoriété, la reconnaissance, être connu ou reconnu, les deux n'ayant pas la même valeur. C'est une manière que les héros grecs recherchaient, que peut-être certains jeunes aujourd'hui recherchent avec la télé-réalité ou être absolument connu ou les réseaux sociaux. Être connu, c'est vouloir se rapprocher d'une forme de divinité.
Oui, d'immortalité.
C'est ça, d'immortalité.
C'était le cléos, atteindre le renom, ne pas verser dans l'oubli. Mais alors pour ça, il fallait faire parfois autre chose qu'un selfie. De temps en temps, il fallait essayer de conquérir une ville sur la plaine de Troie.
Il y avait quelques carnages quand même. Oui. Même quand il n'y a plus de...
C'est hyper violent.
On en payait le prix.
C'est hyper violent, c'est intéressant.
Très violent.
Quand on relit
ces textes-là, tout est très décrit.
C'est très détaillé. Ouais. Et quand on fait aujourd'hui la critique de films ou de séries, de vidéos, de jeux vidéo,
de Games of Thrones,
en disant que c'est hyper violent, on se dit mais la violence est là, ce côté très bestial, on le voit dans la folie qui s'empare d'Achille, de Patrocle juste avant, que c'est complètement sanguinaire en fait. Et c'est assez fascinant.
Et que même la paix, vous dites, c'est quelque chose, il ne faut pas croire que les guerres arrivent d'une manière exceptionnelle, c'est la paix qui, elle, est exceptionnelle.
Oui,
la
paix est un interlude.
C'est ça.
La paix, c'est le nom qu'on donne très poliment, parce que nous sommes civilisés à l'entre-deux-guerres. En fait.
C'est ça. La paix. Voilà. Et comme le disait, je crois, Charles Péguy, vous l'écrivez dans votre livre, pardon, je donne l'idée, Homère est extrêmement moderne et actuelle, alors que le journal du jour est déjà dépassé.
Quoi. Voilà, le journal du jour est vieilli, alors qu'on relit Homère comme un journal quotidien. D'ailleurs, on peut ouvrir l'Iliade et l'Odyssée et ça économise un abonnement au journal. Enfin,
loin de moi
l'idée de relativiser l'importance de la presse et des journalistes.
Mais enfin, les extraits justement sont dans votre livre et c'est ça aussi qui est passionnant, c'est de pouvoir comme ça de temps en temps se replonger dans l'œuvre d'Homère. Un été avec Homère aux éditions Équateur Parallèle avec France Inter, puisque j'ai oublié de le préciser, à l'origine, c'est une série d'émissions qui a été diffusée pendant l'été 2017, l'année dernière, sur Inter. Père Albert, vous avez compris pourquoi Sylvain Tesson était
notre invité. Une chose est sûre, mon cher Nagui, j'ai mieux compris que vous, car lorsque vous avez demandé à Jean B, notre rédac chef poilu, pourquoi venait Sylvain Tesson, bonjour Sylvain, et félicitations pour ton entrée dans le Petit Larousse. Nagui n'y est pas. Donc, Nagui, quand vous avez demandé à Jean B pourquoi venait Sylvain Tesson, il vous a répondu « Pour un été avec Homer !» Et vous, vous êtes écrié « Super génial, j'adore les Simpsons !» Comme Jean B, surmontant sa terreur, a osé préciser « Oh mon bon maître, il ne s'agit pas d'Homer, le mari de Marge, mais d'Homer avec un E, l'auteur de l'Iliade et l'Odyssée !» Alors tout en frappant violemment sur le casque intégral dont Jean B avait pris la précaution de se coiffer avant d'oser vous répondre, vous avez hurlé, Nangui. Regarde-moi bien de profil, espèce de raclure de Coulommier. Est-ce que j'ai le nez grec, hein? Moi, mon gage, je descends en ligne directe de Phimosis Ier, pharaon de la première dynastie. Alors, la mythologie grecque. Tu veux me menacer de ton pied, c'est ça? Alors, la mythologie grecque et son folklore grotesque. Calypso la roulure, les sirènes allumées, le cyclope demeuré, Circé zoophile, les lotophages complètement camés, tout ce bazar grotesque qui enchante Sylvain Tesson. Moi, je m'en contrefous. Mais Dieu à moi, ce sont les dieux de l'Égypte antique. Osiris, Isis, Anubis, pain d'épices, pubis, syphilis et cannabis. Vous êtes sûr, au grand vizir des hommes, que ce sont bien des dieux? Tais-toi et va vite voir Leïla Kadour. Elle a dû se régaler. Mais oui, j'ai pas assez de mots pour dire ce qu'elle a apprécié. En lisant le bouquin, il y a sûrement des mots qu'elle seule emploie régulièrement dans l'émission et qu'elle va nous ressortir. Topos, Helios, Hubris, Cairo, Moira, Kalos, Kagatos, Asania, Hydroi, Merinos, Albinos,
Vadonchimidas,
Aliagas, Nikos. Voilà, Sylvain Tesson, comment se prépare la bande originale. Pour ma part, je n'ai pas le temps de vous exorciser pour ce que vous dites du christianisme qui aurait, je vous cite, porté au pinacle faible à la place du guerrier. Donc, je vous souhaite bon courage.
Merci
et bonne émission.
Albert, merci.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Rappelez-vous de Mortchiba. Ils reviennent avec un nouveau titre qui sera en live dans quelques minutes. Et on aura la chance d'avoir la version acoustique de ce titre Never Undo dans quelques minutes. Mais d'abord, Leïla, vos oreilles ont sifflé quand on vous a dit que Sylvain Tesson acceptait,
et oui,
dans sa gentillesse et magnanimité, de venir à cette émission.
Et quand je pense à vous, Sylvain Tesson, je pense à votre expédition au bord du lac Baïkal. Mais j'entends aussi cette musique.
Encore un Égyptien. Ouais, bah. Ibrahim Malouf, non ?
Ibrahim Malouf, ouais.
Ah oui.
Je pensais qu'il était libanais.
Ah oui, t'as raison. Non.
Ah bah tiens, regarde, comme on essaye de...
Les Égyptiens partout. Vous voulez tout récupérer, hein.
Non, c'est parce qu'on avait fait la vanne avec Mathieu Chédid. Je suis désolé. Ouais.
Red and Black Light, c'est ça. C'est la magnifique BO du film de Safie Nebout, Dans les forêts de Sibérie, avec Raphaël Persona. Un film qui est tiré de votre expérience en 2010, lorsque vous avez passé 6 mois dans une cabane au bord du lac Baïkal en Sibérie, seul, avec 2 chiens, des livres et de la vodka. Comment est-ce que vous avez vécu cette expérience solitaire et surtout comment vous avez vécu l'adaptation fictionnée de cette aventure?
Pour moi, ça a été merveilleux d'imaginer qu'un réalisateur allait empoigner mon récit et en faire un film. C'est quelque chose qui est extrêmement satisfaisant. J'ai trouvé que j'étais très content, pour tout vous dire, de voir un film qui parlait de la Russie autrement qu'en disant que c'était un asile psychiatrique peuplé d'ivrognes et de mafieux.
Oui.
Ça, c'était quand même extraordinaire.
Bon, après, il n'y avait pas beaucoup de monde.
Alors qu'il
n'y
a que Poutine, quoi. Comme ivrogne, il n'y a que Poutine.
Non, mais c'est vrai qu'il y a un déferlement de clichés,
oui,
sauf que dans le film, de préjugés sur la Russie.
Mais sur tout le monde, les clichés, enfin, on est à la mode du cliché. Ouais.
Sauf que dans le film, je veux dire, il n'y avait pas beaucoup de monde non plus pour faire des portraits.
Non, il y avait un repris de justice, et puis il y avait ce Français, incarné par Raphaël Personnage, qui venait essayer de retrouver une assise intérieure pour parler un peu psychologiquement, au bord du lac. Donc j'ai été très très heureux, moi, de ce film.
Alors je pense à un de vos camarades.
Nous aussi, d'ailleurs, ouais, parce qu'on l'avait reçu dans l'émission, aimé. On avait adoré. Ouais.
Je pense à Jean-Christophe Ruffin, qui a participé récemment à l'adaptation de son bouquin Le Collier Rouge avec Jean Becker pour le passer au cinéma. Est-ce que ça vous aurait tenté de participer à l'écriture avec sa fille Nebout? Pas du tout.
Ah mais pas du tout. On y a réfléchi, mais c'est deux exercices différents. Moi, je crois à la légitimité professionnelle. Je serais incapable, moi, d'écrire une chronique pour la radio, par exemple.
En même temps, c'est ce que vous avez fait l'été dernier avec Homer.
Ah oui, c'est vrai, remarquez. Oui, j'ai
oublié. Et vous avez même dit, vous précisez en exégèse du livre, que c'est pas le même style, le style écrit, le style parlé.
Non, parce que le style, à la radio, on est devant un micro, on fait un appel, on se demande si quelqu'un nous écoute. Alors, c'est une espèce de longue lamentation. Oui, en tout cas, c'est la suspicion qu'on parle dans le vide.
Oui, mais c'est lisible. Mais
c'est européen, ça, non?
C'est petit.
Et est-ce que cette assise intérieure, ce voyage de 6 mois, est-ce que c'est une expérience que vous souhaitez renouveler? C'est quelque chose d'essentiel à votre vie maintenant? Une fois qu'on a connu ça, j'imagine que c'est difficile de ne pas se relancer là-dedans.
Oui, ça frise même une forme de pathologie. J'essaye, moi, de retrouver le plus possible des occasions de vivre dans le retrait, de vivre le pas de côté. Quand j'ai écrit Homer dans un pigeonnier au fin fond d'une île des Cyclades, j'étais absolument tout seul avec le vent, quelques scolopendres et mes livres, ça ressemblait à la Russie. Je développe dans les refuges de montagne, dans les forêts, dans les bibliothèques, je développe le réseau asocial. Je préfère ça aux réseaux sociaux.
C'est joli. Sylvain Tesson est notre invité. Il signe Un été chez Homer, que l'on vous recommande vivement, que vous pouvez aussi...
C'est un beau livre.
À la manière... Oui, on peut le feuilleter, on peut picorer comme ça, ou se faire son petit billet quotidien, c'est plusieurs petits billets quotidiens, parce que quand on en a lu quelques pages, on a du mal à refermer, on a envie de vite prolonger la suite. Et il y a toute une théorie aussi sur de l'importance des femmes. Vous dites que les femmes se battent pour l'égalité, elles auraient bien tort de vouloir être l'égale des hommes parce qu'elles sont déjà supérieures, et être l'égale, ça serait les rabaisser.
Oui, je trouve, et d'ailleurs elles sont à la manœuvre dans l'Odyssée et dans l'Iliade.
Ah, il y a une femme partout,
y a une femme
que ce
partout,
soit à Troie avec Hélène, Pénélope, ouais. Oui, bien sûr.
Et ouais. Tous les guerriers et tous les héros ont l'impression que ce sont eux qui mènent la danse, mais en réalité ils sont les pantins. Je ne dis pas qu'elles sont manipulatrices, attention, loin de moi.
Certaines le sont. Calypso, Circé, enfin, je veux dire, Ulysse en rencontre quand même.
Les femmes décident.
Des femmes plutôt monstrueuses.
Les femmes décident.
Des femmes monstrueuses.
Non,
aussi.
Mais toutes.
Les hommes vont vers les femmes, les hommes sont conduits par les femmes, les hommes font la guerre pour les femmes, et les femmes sont dans un léger retrait, parce qu'elles n'ont pas la vulgarité de se mettre sur le devant de la scène, mais ce sont elles qui sont à la manœuvre.
Voici dans cette émission, et c'est un plaisir parce que l'album ne sortira que le 1er juin, donc vous allez découvrir avant tout le monde le retour de Morcheeba, le groupe qui a vendu plus de 10 millions d'albums dans leur carrière. Ils sont là avec un nouveau titre, ça s'appelle Never Undo, et c'est en live. It's true.
If you're tortured in pain, I could be the one. I could stop the rain from falling. No need to be afraid. Let me be the one. You and I are the same. And if you only knew, we won't undo. It's all.
Please, can you join us at the table? Thank you very much. Sky va nous rejoindre, la chanteuse de ce groupe, Sky Edwards. Vous pouvez continuer d'applaudir Ross Conley qui est à la guitare, Jega McKenna qui est aux percussions et Richard Milner qui est au clavier. On va parler de ce nouvel album. Vous parlez français évidemment, Sky?
Non.
Si, bien sûr. Si vous comprenez la question, déjà, c'est vous parlez français. Blaze Away, c'est le titre de ce nouvel album. Ça faisait combien de temps qu'il n'y avait pas eu un nouvel album de Mochiba? The last album was how many years ago?
5 years ago.
5 years ago.
Yeah.
Why such a long time? Pourquoi avoir attendu si longtemps?
We were going through some changes within the group.
Il y a eu quelques changements au sein du groupe.
And then Ross and I released an album called Sky Ross.
Just to tell everybody, there is a lot of movement in this band since the band is born. Il y a eu beaucoup de mouvements depuis que le groupe est né. Even you left the band, même elle a quitté le groupe.
I didn't leave. They left me.
Come on! Then other women came, d'autres femmes sont venues dans le groupe parce que
That's how Ross met his wife.
Voilà.
She was one of the singers.
C'est comme ça que Ross a rencontré son épouse. Et puis on s'est rendu compte, and obviously, Mochiba goes with your voice. I mean, you're the signature of the Mochiba's music. You agree with that? Elle est la signature de la musique de Mochiba.
Oui.
D'accord. Bah oui, il faut reconnaître. Alors, il y a un nouvel album. Cet album, c'est un retour aux sources. You are in this album kind of going back to your roots, your musical roots.
Yeah. I mean, we can't help but sound like that when
you have my voice
and Ross's guitar. So we just sound like Mochiba when we put... when we make music together, so but there's still songs that sound more future.
There is rhythm and blues, pop, trip hop, still.
Always, voilà, but that's what we do.
Voilà, c'est ce qui savent faire, c'est ce qui va avec la voix de Sky et avec la guitare de Ross. And you are looking for always something new. Elle cherche toujours quelque chose de nouveau. Even you were in Moscow, I've been told, during a festival, and you met Roots.
That's right,
Manuva. Ils ont rencontré un rappeur. Mm-hmm. That changed your way of producing and writing the music. Ça a changé leur manière d'écrire.
A little.
Why? Well, I mean, you just need to turn on the music on the radio and to see there is other kind of music. Ils ont juste besoin d'écouter la radio. How meeting people, human being, relationship can change your music. Comment les rapports humains peuvent changer la musique?
Yeah, he just had a different way of saying things, he just brought a new energy to the track. So.
Donc il avait une autre manière de voir les choses et d'écrire et surtout d'apporter sa patte aux chansons. Il est là, Roots Manuva.
It's all in love. Save us from the rut, from the rut, from the rut.
What next? What now? Living up here, lose the clouds.
Qu'est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que c'est bon? So good. Such a great album. Vraiment, sur cet album, il y a aussi Sweet LA.
Talking
about the lyrics, you wrote everything?
Usually it was Paul Godfrey who wrote the More Chiba lyrics, but he's no longer part of the group, so I had
Which is
to...
Ross' brother.
Yes.
Voilà, le frère de Ross, Paul, a quitté le groupe pour des projets personnels. Maintenant, c'est Sky qui écrit tout. How do you... What's your aim when you write songs? Quelle est son intention?
Yeah,
quel est son but?
It all depends. I mean, this one that we're listening to, Sweet LA, was inspired by my 20-year-old daughter who met somebody through Instagram. He lived in Los Angeles and they never met, but she was convinced he was going to be her future husband, and she fell in love and got her heart broken. So, I wrote a song about it.
Donc cette chanson Sweet LA raconte l'histoire d'une liaison par réseaux sociaux interposée, Instagram pour ne pas le citer, de sa fille d'une vingtaine d'années qui est tombée amoureuse d'un garçon qui était à Los Angeles, et elle a cru avec cette liaison et ces échanges numériques, elle a cru que c'était l'amour de sa vie, et s'en est suivie une déception amoureuse un peu moins numérique. Mochiba, it's a family story. I mean, yeah. your son is playing drums.
Yeah, that's my son.
You have to assume it.
I had him when I was 10.
C'est son fils, elle l'a eu quand il avait 10 ans. C'est pour expliquer peut-être la jeunesse de tout le monde. Ils seront en concert, et ça aussi c'est la bonne nouvelle, Mochiba, en tournée, notamment le 6 juillet au Saveur Jazz Festival, ça sera à Segré, le 13 juillet Jazz à Vienne, le 26 juillet les Nuits Guitares à Beaulieu-sur-Mer dans les Alpes-Maritimes. Ensuite il y aura Fest in Pia, ça sera au mois d'août, le 4 août, le Festival des Rendez-vous Soniques à Saint-Lô en novembre, le Festival Bebop au Mans le 10 novembre, le 11 novembre au Colisée à Roubaix, puis à Paris, ça sera à Trianon le 13 novembre. It's a really great album. Thank you for being back. Mochiba, ils seront de retour dans la bande
originale.
Avant de s'attaquer et de s'intéresser à la musique choisie par Sylvain Tesson, qui est notre invité et qui signe Un été avec Homer aux éditions Parallèles, voici l'humeur de Frédéric Sigrid.
Bonjour à tous. Alors faisons simple et plus direct que le belge à l'addiction défaillante qui vous a servi de chroniqueur hier. L'Iliade.
C'est Guillermo.
Oui, il m'a dit d'écrire ça. L'Iliade est mon livre favori. Alors oui, évidemment, non, il y a des livres incontournables, à la recherche du temps perdu, des souris et des hommes, les leçons du pouvoir de François Hollande, sans oublier l'article de Téléstar de novembre 96 où Nagui explique que son principal défaut, c'est le perfectionnisme. Mais, malgré ça, malgré ces textes qu'on doit étudier à l'école, rien ne vaut l'Iliade et l'Odyssée. Je suis d'accord avec vous, Sylvain Tesson, il y a dans ces deux livres toutes les réponses que l'humanité se pose depuis la nuit des temps. Pourquoi la vie ? Pourquoi l'amour ? Pourquoi Daniel Morin ? Oui, même ça, il l'explique, Homère. Dans l'Odyssée, on lit « Les dieux ne dispensent pas également leurs dons à tous les hommes, la beauté, la prudence ou l'éloquence. Souvent, un homme n'a point de beauté, mais un dieu l'orne par la parole. » Et si ça, c'est pas de Daniel Morin dont il parle ? Alors, resituons d'abord ce qu'est l'Iliade dans le monde actuel, ou presque. Si vous voulez, pour schématiser, c'est comme si Nicolas Sarkozy avait déclaré la guerre aux États-Unis quand Cecilia s'est barrée avec Richard Attias. Voilà, les Grecs accusent les Troyens d'avoir enlevé Hélène, la plus belle femme du monde. Hélène, dans l'Iliade, c'est un petit peu une arme de distraction massive. Imaginez Colin Powell à l'ONU qui, au lieu d'agiter une fiole vide pour justifier la guerre en Irak, agiterait une photo de Penelope Cruz. Moi, en même temps, j'aurais trouvé ça beaucoup plus convaincant. Hein, l'Iliade, c'est aussi les Avengers avant l'heure. Il y a toutes les stars de la mythologie grecque. Ulysse, Achille, les deux Ajax, les dieux et déesses Athéna, Poséidon, Aphrodite. Oui, parce que les dieux eux-mêmes s'en mêlent. Chacun soutient un camp différent. Bernard Guetta, il pourrait tenir 15 ans sur les ramifications géopolitiques du conflit gréco-troyen. C'est toute la différence avec la chrétienté. Chez les chrétiens, Dieu est amour, mais on le voit tout de même assez rarement. Hein, Dieu, chez les chrétiens, il a la présence médiatique de Jean-Jacques Goldman. Il a fait 2-3 tubes, mais depuis, il vit quand même sur ses acquis. Les dieux grecs, par contre, eux, tu les vois souvent, mais c'est des beaux salauds. Tu tricotes mieux qu'eux, tu termines transformé en araignée. Tu as mal fait tes offrandes, tu te prends la foudre. Tu prends une douche, tu te fais violer par Zeus qui s'est transformé en eau du bain. Mais franchement, être athée à cette époque, ça, c'était couillu. Et dans l'Iliade, il y a surtout Achille, le demi-dieu, le plus grand héros de l'armée grecque, qui a fait le choix d'avoir une vie courte mais glorieuse, plutôt qu'une longue vie heureuse mais dans l'anonymat. Un petit peu comme vous, Nagui, hein, qui avez opté pour une gloire bien plus importante que votre taille. Et finalement, voir des jeunes
ça
convaincus...
Ça fait rire, ça, vous. Je rêve.
Voir des jeunes convaincus qui ne trouveront la gloire que dans la mort face à des ennemis, eh ben, c'est tristement d'actualité. Achille, il était un à la Wakbar d'être fiché S. Hein.
Ouais.
Et puis il y a Hector, le héros troyen, bon père de famille, bon mari, fidèle à sa femme et à sa patrie, le profil type du héros au XXe siècle. Je suis sûr qu'il fait la vaisselle, qu'il prend sa part de charge mentale et qu'il boit du thé vert. Eh bien, spoiler, il meurt. Oui, parce que c'est toute la différence pour Homère. Ulysse, le brillant stratège, Achille, le guerrier sans pitié, ce sont eux les héros, pas le noble Hector. La terrible leçon de l'œuvre d'Homère, c'est qu'en temps de guerre, tu rentres pas dans ton foyer en étant noble ou gentil, mais en étant un bel enfoiré. Quand je vous disais que c'était un livre contemporain.
Merci Frédéric Siris.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Un été avec Homère, Sylvain Tesson. D'ailleurs, Homère, est-ce que c'est un seul et unique poète ou est-ce que c'est une...
Un collectif de troubadours, ouais. de trouvères.
Oui, un collectif d'artistes. Quoi. On ne sait pas, il y a un débat dans l'université. Certains pensent que c'est un génie pur qui a tout inventé en débarrant ex nihilo, c'est-à-dire la littérature, la poésie, la mythologie, tout quoi, et qu'on aurait pu mettre un point final à sa création. Et puis d'autres qui pensent que c'est simplement des histoires qui circulaient autour de la Méditerranée et qu'on a fini par recoudre comme un manteau d'arlequin. Moi, pour tout vous dire, je m'en fiche un peu. Parce que je trouve qu'on perd beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à essayer de se demander qui était Homère. Ce sont un peu des discussions de spécialistes et d'universitaires. Alors que vous l'avez dit, la vérité de l'Odyssée et de l'Iliade, c'est la beauté. C'est la beauté des vers. Il faut ouvrir ce texte, les lire par exemple à haute voix, et à ce moment-là, on peut se contenter de l'incroyable splendeur de ce qui ressort, même musicalement, de ces alignements de vers.
Vous parlez de Philippe Jacotet et de Philippe Brunet, c'est les deux auteurs, les deux traductions que vous avez choisies, qui sont une très belle traduction.
Oui, Brunet a dédié sa traduction à la lecture à haute voix qu'il pratiquait lui-même. Mm-hmm. On appelait un naède, un poète pendant la Grèce antique, et un naède, c'est quelqu'un qui lit à haute voix. C'est très récent, la lecture.
Ça change quoi?
La lecture silencieuse. Ça change d'abord qu'on destine aux dieux sa lecture. On devrait d'ailleurs crier toute la journée à haute voix les poèmes, la poésie. Quand vous lisez...
C'est Flaubert qui avait son gueuloir.
Oui, il fait son gueuloir. Parce qu'il s'apercevait, quand il lisait les phrases à ses camarades, enfin, ses camarades, c'était Tourguenieff, Émile Zola et Maupassant. Alors, c'est évident que l'assemblée à qui il destinait la lecture de ses textes était évidemment assez... pouvait être sévère. Mais on s'aperçoit de des erreurs que l'œil ne voit plus quand on lit silencieusement, quand on les destine à la voix haute. C'est un extraordinaire instrument, la lecture à voix haute, de perfectionnement. Vous qui êtes perfectionniste, vous devriez vous exprimer à voix haute, d'ailleurs,
mais
c'est ce que vous faites.
Pas, ne le croyez pas, si j'étais perfectionniste, vous doutez bien qu'ils ne seraient pas tous là autour de cette table. Vous dites que le fait de déclamer donne une autre dimension, un autre pouvoir aux mots, et pourtant ce n'est pas la même langue, la langue écrite et la langue parlée.
Oui. Non, mais c'est vrai. Mais Homère va même plus loin que cette nécessité d'encourager à lire. Il dit que l'une des catégories, l'un des critères de l'héroïsme, c'est la capacité de bien parler, la belle langue. Et on voit dans l'Iliade des moments qui pour moi sont les plus beaux, mais il est vrai que je prêche pour ma paroisse c'est les mots, c'est la langue, c'est le verbe. On voit parfois les troupes des Grecs qui sont complètement épuisés parce que ça fait 10 ans qu'ils se battent, ils ont envie de rentrer chez eux, et à ce moment-là il y a un héros qui arrive, qui se met sur la barricade et qui leur fait un discours splendide. Ça peut être Agamemnon, ça peut être Ulysse. Et tout à coup, la troupe est galvanisée par le verbe. Et moi, j'aime beaucoup cette idée-là. Parce que nous sommes tellement ensevelis par l'image aujourd'hui, depuis quelques décennies, on se demande si le verbe serait encore capable de nous électriser.
Sauf que c'est un verbe insufflé par les dieux, parce que Ulysse est le réceptacle d'Athéna, c'est la ruse, et c'est Athéna qui le fournit en idée.
Donc c'est le manipule, donc.
Il y a une forme de manipulation qui l'alimente, en fait. Donc il y a aussi c'est ça qui est paradoxal, on s'attache énormément à des personnages, et au fond, ils sont un peu des marionnettes, et ils sont le réceptacle.
Ils sont le porte-voix.
Ouais, le porte-voix.
Ils sont la caisse comme de
la résonance. Comme la aide et le porte-voix de ce récit initiatique.
De toute façon, c'est à la base une manipulation des dieux, vu que ça a été le choix
de Paris. Mais c'est toute la question grecque de la liberté, c'est-à-dire est-ce qu'on est les souverains de nous-mêmes, ou est-ce qu'on est des pauvres pions sur l'échiquier où les dieux s'amusent à jouer aux dames, quoi.
Encore un discours très actuel.
Oui, bien sûr, et c'est un discours qui est actuel dans qui est un discours de l'actualité, mais qui est un discours qu'on peut avoir à l'égard de soi-même devant sa glace le matin. Quoi. Qu'est-ce que je fais de ma journée? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que je suis le maître de moi-même ou est-ce que je suis la marionnette de toutes les courants qui me traversent?
Sylvain Tesson signe un été avec Homer. Ce livre est aussi passionnant que Sylvain Tesson puisse être passionné, et il l'est sur Homer et sur d'autres sujets. On va continuer d'en parler avec vous, et notamment de votre carrière, de votre vie en musique. En 91, vous écoutiez
Opium, poison de rêve, fumée qui monte au ciel, c'est toi qui nous élève au paradis.
En 91, il y a peu de chances que vous écoutiez ce Brigitte, titre de Brigitte, mais c'est le clin d'œil fait à cette musique.
Elle était née.
C'est pour le titre ou parce que cette musique vous renvoie une image précise?
Ces paroles sont absolument incroyables. D'abord, c'est une célébration de l'opium. Alors évidemment, c'est quoi? C'est à consommer avec modération, l'opium. Ou peut-être
non,
pas du
non,
tout, d'ailleurs.
Non, c'est l'alcool.
Je me trompe toujours.
C'est pas les mêmes législations.
Je me trompe toujours.
Quand tu es perfectionniste, c'est avec précaution.
C'est des paroles extraordinaires. Puisqu'on dit que le bonheur n'existe pas sur la terre, puisse l'aile de nos chimères nous conduire vers l'ailleurs. J'ai guidé ma vie avec cette idée-là que la réalité, enfin ce que nous proposait le monde ne suffisait pas tout à fait, qu'il fallait s'engager dans le voyage, dans la lecture, dans la poésie et chercher des chimères, de rêve.
Et en 91, Sylvain Tesson, vous vous lancez dans un voyage un petit peu fou avec un compagnon. Vous allez en Islande, vous envisagez de traverser l'Islande à vélo et c'est un voyage qui est plutôt mal préparé, je crois.
Oui, tous mes voyages ont été assez peu préparés. En fait, je suis pas un absolu spécialiste de la logistique, mais c'est comme la vie, quoi. Tout le monde, ça m'étonne beaucoup les gens qui préparent tout parce qu'ils ont pas préparé leur arrivée sur Terre. Et donc, moi, je répète cette espèce de grande absurdité de mon arrivée dans ce monde, quoi. Je prépare pas grand-chose et souvent, il m'arrive des petits croque en jambes du destin.
Pourquoi vous voyagez? C'est pour
il n'aime pas être enfermé.
Pour couper avec une forme de pseudo-normalité. C'est quoi? Vous cherchez quoi dans ces voyages? Parce que c'est le premier grand voyage de votre vie, l'Islande.
Oui, après j'ai jamais arrêté parce que je crois que c'est la réponse à la question du voyage, c'est que j'aime le mouvement. Je me sens heureux quand la route défile. J'ai besoin que la géographie défile devant mes yeux. J'ai probablement une forme de d'énervement. Vous savez, comme si on a du poil à gratter et puis on se met à se démanger. Alors moi, c'est l'immobilité qui me...
Pourtant, vous parlez des héros, encore une fois, dans votre livre Un été avec Homer, en disant, mais pourquoi ne pas jouir du quotidien, de la normalité, du café d'ailleurs, c'est un symbole, le café quotidien, comme si on était plan-plan.
Oui, c'est la grande question d'Ulysse, c'est-à-dire que lui, il veut rentrer à Ithaque pour vivre avec Pénélope, avec ses arbres fruitiers, son vieux père, sur son île.
Ne le dites pas sur ce ton-là, écoutez, évidemment.
Non, mais c'est pas un vrai voyageur, en fait.
Non, mais
Ulysse,
c'est formidable de faire la vaisselle, je suis d'accord avec vous, pendant 20 ans, avec son épouse merveilleuse, certes, ok. Sauf qu'avant d'en venir là, il a circulé pendant 20 ans entre les aventures et les magiciennes et les champs de bataille. Alors voilà, le chemin qui vous mène à cette vie mesurée, à cette vie très antique, à cette vie grecque, à ce qu'on appelle la bonne vie, vous conduit d'abord dans une petite forme d'épilepsie autour du monde.
Oui, parce que vous, la mobilité, c'est important. Depuis tout petit, on vous surnommait le prince des chats, parce qu'il y a la mobilité, mais il y a aussi cette côté élévation, il faut toujours grimper. Vous êtes amateur de stégophilie, voilà, grimper à main nue sur les monuments, sur les façades. Et
sur les toits.
Oui, ouais. Vous avez un petit côté baron perché aussi, vous dormez dans les arbres. Ça vient d'où ça? C'est tout d'un coup quand on est enfant et quel regard les parents portent là-dessus?
D'abord, pour tout ce qui est des toits et tout ça, il y a prescription. Ouais. Je prends mes dispositions, mes précautions légales avec toutes ces choses-là.
On est en 91, là.
Je ne sais pas d'où ça vient. Il me semble qu'il n'y a pas tellement d'explications à tout ça. Simplement, il y a quand même une forme d'ennui quand on est un enfant. C'est ça l'enfance en fait, c'est les tentatives de sortir de l'engrisaillement, du sentiment de la monotonie, et alors on fait comme on peut quoi. Et moi j'avais devant moi des arbres et des façades de monuments, puisque j'étais un petit urbain quoi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai grimpé. Et à ce moment-là j'ai découvert qu'on pouvait voyager, non pas en mettant 3000 km entre son habitation et puis la destination de son voyage, mais en mettant simplement 50, 100 ou 200 mètres, c'est-à-dire l'intervalle d'une paroi quoi. L'escalade, c'est ça.
C'est la mort d'un ami qui vous a poussé à vouloir aller vers le haut alors que lui est...
Oui, moi j'ai eu des camarades qui ont disparu très vite dans des circonstances accidentelles sur la route en Afghanistan ou bien en escalade quand je faisais de l'escalade urbaine, et c'était peut-être un peu tôt, enfin j'étais pas très vieux, enfin j'en sais rien d'ailleurs parce que j'avais 17 ans pour l'un, 25 ans pour l'autre, donc c'est des moments où on a l'impression d'être un peu confronté rapidement à la tragédie, et puis j'ai voulu par un surcroît vital essayer de d'apporter une consolation.
À la verticale de soi, vous dites à un moment, c'est reprenant le propos d'une alpiniste.
De Stéphanie Baudet.
Stéphanie Baudet, ouais. Oui, c'est ça en fait.
Alors justement, oui. on en arrive à l'accident, on est en 2014, et là, c'est cette musique que vous avez choisie. Et on est dans la nuit du 20 au 21 août. Vous avez malheureusement perdu votre maman et vous escaladez une maison alors que vous étiez chez Jean-Christophe Ruffin. Et là, vous glissez, vous faites une chute de 10 mètres de haut. Pourquoi avoir choisi cette musique pour la rapprocher à cet événement?
Parce que d'abord, c'est une musique...
C'est un requiem.
C'est un requiem écrit par un Biélorusse qui est assez peu connu, dont je n'arrive jamais à prononcer le nom.
Kozlovski.
Qui est un espèce de pré-romantique du début du XIXe siècle. Et c'est l'une des premières musiques que j'ai pu à nouveau entendre quand je suis sorti du coma et que mes petits malheurs ont commencé à s'atténuer et que j'ai pu réécouter de la musique. Alors évidemment, c'était un peu idiot d'écouter un requiem quand vous êtes sur un lit d'hôpital après un accident. C'est pas ça qui va vous inciter à vous lever pour redanser la samba. Mais c'était un tel bonheur pour moi de réentendre la musique que j'ai écouté quasiment ça en boucle.
Et pourquoi avoir escaladé cette façade ce soir-là? Vous fêtiez quelque chose?
Non, mais c'est toujours pareil. Moi, vous comprenez, quand les gens sont... Il y a des gens qui boivent, des ivrognes, car je l'étais. Il y a des ivrognes qui, quand ils boivent, ils font des discours politiques. Il y en a qui montent sur la table, il y en a qui enlèvent leurs culottes, qui saoulent, et chacun a
sa signature.
Oui, et puis son débordement. Et moi, c'était de grimper. Dès que j'avais un coup dans le nez, je ne sais pas pourquoi, je grimpais. Grimpais partout, même si c'était le commissariat de police, je grimpais. Ça m'a valu quelques ennuis. J'écrivais tous les matins des lettres d'excuses. Tous les matins, de mon réveil jusqu'à midi, j'écrivais des excuses pour demander pardon de mes forfaits de la veille. Au bout d'un moment, vous vous apercevez que ça devient un peu compliqué de vivre comme ça. C'est pas une bonne organisation de la vie.
C'est un genre littéraire en soi, la lettre d'excuses. On peut faire un recueil de lettres d'excuses, finalement.
Oui, ça pourrait être presque une autobiographie, quoi, mais lettre d'excuses.
Vous pensez avoir été immortel dans vos comportements, par moments, de ne rien craindre, malgré le décès, justement, de vos différents amis?
Je crois qu'on le pense, oui. Quand on est doté d'un bon appétit de la vie et qu'on a une bonne constitution physique et qu'on a 20 ans, on croit qu'on est immortel. Et puis alors à ce moment-là, il faut prendre la gifle d'une porte qui se referme un peu fort. Alors ça peut être sous la forme d'une chute, par exemple. Et puis il faut qu'elle soit un peu plus heureuse que fatale. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que notre part de vie, comme dirait un grec... est éphémère et elle est intensément importante.
On en revient toujours au grec, hein, n'est-ce pas? Un été avec Omer, Sylvain Tesson, aux éditions Équateur Parallèle. On va continuer évidemment d'en parler, de ce livre passionnant jusqu'à midi et demi, et puis on va réécouter Mochiba. Sur cet album, il y a Never Undo, il y a également Free of Debris. Je rappelle que l'album ne sortira que le 1er juin. Sur cet album, il y a cette rencontre avec ce rappeur Roots Manouva. Le titre justement Blaze Away donne son titre à l'album de Morcheeba. Avant de découvrir encore l'album de Morcheeba, il nous offre une reprise d'une chanson de Neil Young, Don't Let It Bring You Down. C'est en live et c'est Morcheeba dans la bande originale. Fort, c'est que juste avec cette voix, cette musique, tout devient du Morcheeba et c'est délicieux. Morcheeba, l'album à Never Undo dessus. L'album ne sortira que le 1er juin prochain, encore une fois, vous le découvrez avant tout le monde sur Inter aujourd'hui dans la bande originale. Ils reviendront tout à l'heure avec un nouveau titre de leur album. Ils sont en concert, ça sera le 13 novembre au Trianon à Paris et avant cela il y aura eu des festivals comme Saveur Jazz Festival à Segré le 6 juillet, le 13 juillet Jazz à Vienne, le 26 juillet les Nuits Guitares, ça sera Beaulieu-sur-Mer, le 4 août à Fest in Pia, donc à Pia, le 9 novembre au Festival des Rendez-vous Soniques, tout le monde ne sait pas que Pia est une ville, c'est ça. C'est dans le 66 qui est bon en département, voilà. 66 Albert. Pyrénées-Orientales, très bien, merci en magie. Festival Bebop, ça sera au Mans le 10 novembre et au Colisée à Roubaix le 11 novembre. Ils reviennent tout à l'heure donc chanter It's Summertime de leur album Blaze Away. Dans la bande originale, c'est Tanguy Pastureau qui est là, bonjour.
Bonjour, bonjour. Hey,
Tanguy. Laurent, Tanguy. Laurent Delahousse s'est fait descendre en flèche sur Twitter.
Oui, parce que dimanche en direct live sur la 2, il n'a pas retrouvé le pays d'origine Dinamo Dja, chanteuse née au Mali, et il lui a dit vous venez d'Afrique. Or l'Afrique c'est grand et varié, comme vous le direz Vincent Bolloré. Les tweetos lui sont donc tombés dessus comme ils font à chaque personne personne qui passe à la télé, hein, donc pas Lionel Jospin.
Ouais, ceci dit, ils avaient parlé du Mali avant d'être à l'antenne.
Oui, je sais
bien. On ne développe pas.
Non, je voulais juste expliquer.
Non, c'est tout. Il avait parlé du Mali avec Inamoja avant même d'être à l'antenne. Et puis une fois qu'il était à l'antenne, il y a eu un énorme trou de mémoire.
C'est des choses qui arrivent.
Et en tout cas, on peut accuser Laurent Delahousse d'aucun travers.
On l'embrasse.
C'est clair. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kato-Boudadi.
Bonjour à tous.
Frédéric Sigriste, Tanguy Pastureau.
Bonjour.
Albert Algou.
Bonjour.
Daniel Morin. En live tout à l'heure, Mochiba. Et notre invité, Sylvain Tesson.
Bravo.
Un été avec Homer, on en parle depuis le début de cette émission, avec beaucoup, évidemment, d'histoires qui retrouvent leur écho 2500 ans plus tard dans notre vie quotidienne. À se demander d'ailleurs si, que ce soit Homer ou ce groupement de poètes, peu importe, vous avez raison, s'ils n'avaient pas tout compris, est-ce que c'était de la prémonition, est-ce que c'est un cadeau des dieux pour expliquer ce qui allait se passer pendant des millénaires, ou au contraire, avoir si bien compris la nature humaine qu'il ne peut pas s'empêcher de se battre. Qui ne peut pas s'empêcher de vouloir voler les animaux ou le bétail d'un autre, la propriété d'un autre, de se rapprocher de la des divinités avec je sais pas leur notoriété, ou en tout cas se croire supérieur aux éléments ou à la nature. Il y a vraiment aussi une grande partie faite à la nature. Je voulais parler moi du père. Pardon, mais je vous ai entendu tout à l'heure parler justement de votre papa, que nous saluons au passage. C'est
Philippe Tesson, grand critique théâtre. C'est une sommité, Philippe Tesson. C'est une mémoire, c'est la mémoire collective à lui tout seul hein, du théâtre.
Et pour en revenir donc au père d'Ulysse, c'est le premier réflexe qu'il a après avoir... fêter son retour ou honorer Pénélope, c'est te dire, il faut que j'aille voir mon papa.
Son père, oui. Laërte, il s'appelle.
Et vous dites c'est important parce que il faut pas oublier d'où on vient. Il faut
oui, c'est ça.
Savoir,
l'homme antique, il dit d'abord quand Ulysse se présente, par exemple, dans des assemblées où il est accueilli quand il fait naufrage, parce que l'Odyssée c'est le pire manuel de navigation qui ait jamais été écrit, qui parle pas de faire naufrage sur des îles. Alors à chaque fois il dit qui il est.
Croire qu'il veut pas rentrer.
Oui, c'est ça. À croire qu'il se détourne un peu de son but, mais il décrit l'endroit d'où il vient et il décrit son ascendance. Il parle de son père. Il n'est pas fâché contre son père. Il n'y a pas eu encore le complexe d'Œdipe.
Vous dites que vous préférez Télémaque à Œdipe.
Oui, parce que Télémaque, ce qui est le fils d'Ulysse, au tout début de l'Odyssée, il part pour essayer de retrouver son père et de l'encourager, de l'aider à revenir dans son palais, à se réinstaurer dans son droit, à retrouver sa mère. C'est-à-dire que le syndrome de Télémaque, on pourrait l'opposer au syndrome d'Œdipe.
Ça contredit des interprétations psychanalytiques.
Oui, ou en tout cas, ça propose une autre possibilité de se réaliser en tant qu'individu au sortir de l'adolescence, et plutôt que d'étrangler son père, on peut peut-être essayer au contraire de le ramener à l'équilibre de la famille.
Moi j'ai trouvé ça formidable.
Et pourquoi on a cette bête en soi dont vous parlez, qui pousse les hommes à la guerre et à la mort.
Ça a été la grande interrogation des Grecs, pas seulement d'Homère, d'ailleurs de tous les poètes, de tous les littérateurs grecs, de tous les penseurs, des philosophes, de se demander qu'est-ce qu'il y avait, pourquoi tout à coup quelque chose en nous se déraille. C'est incroyable, quoi. Alors qu'on pourrait tellement se contenter du reflet du soleil, du verre de thé, du verre d'ouzo sur une petite place ombragée dans une ville grecque, et tout à coup on prend les bateaux. Et on part assiéger les villes. Pourquoi ? Ça s'appelle en grec la démesure, la folie,
l'hubris.
Le déchaînement. Les Grecs donnent le nom d'hubris à tout ça. On en parle beaucoup, on entend ce mot qui revient de temps en temps à la surface des commentaires de l'actualité, parce qu'il se trouve que l'hubris, ce déchaînement, cette démesure, cette folie de l'homme, très souvent se manifeste au cours de l'histoire. Quoi. Il suffit d'ouvrir le journal ou le livre d'histoire pour voir que c'est un long émaillement de guerre, de folie, de destruction, qui prennent plus ou moins d'intensité selon les armements. Mais rien n'a changé, en fait. Seules les armes ont changé. C'est-à-dire, aujourd'hui, on se bat plus avec des glaives, mais on se bat avec des sous-marins. Mais, et des avions. Mais il y a quelque chose qui...
Ou des bombes et des attentats plus lâches.
Oui, par exemple. Mmh. Par exemple, oui, des actions commando, des bombes, la lâcheté. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer en termes de manifestation de la folie, mais qui repose sur cette même idée que tout d'un coup, un jour, l'homme a envie d'être un peu plus que ce qu'il est, parce qu'il veut dépasser sa mesure. Et Homère, c'est sa leçon, c'est son seul enseignement. Et pas que les enseignements du pouvoir, il y a les enseignements d'Homère aussi. L'enseignement d'Homère, c'est de dire, il faut un moment se calmer. Calmos, les gars. Ça pourrait s'appeler comme ça, d'ailleurs. L'Odyssée, ça pourrait s'appeler...
C'est du grec, un calmos.
Ça pourrait s'appeler Maman t'attend. Et l'Iliade, ça pourrait s'appeler Calmos.
Calmos, les gars.
Calmez-vous
Mollo,
un moment.
Mollo. Ouais.
Maman et t'attend. Sylvain Tesson signe Un été avec Homère, avec ce plaisir-là, ce plaisir de la vie, parce que c'est ce qu'on lit aussi entre les lignes, c'est l'amour de la vie, de la nature, du moindre rayon de soleil, du moindre vent. Et du vent, il y en avait sur l'île que vous aviez choisie.
Oui, je sais pas si j'ai fait le meilleur choix, moi. Je me suis installé, j'ai l'impression...
On m'a dit que c'était l'île où il y avait le plus de vent de toutes les îles.
Oui, je l'ai appris après. Quand toutes mes feuilles se sont envolées, j'ai dû réécrire ma chronique. Elles étaient à Mykonos, mes feuilles.
Il y a un drôle de pèlerinage à Tinos. Ils le font à genoux, les genoux ensanglantés.
Oui, il y a des orthodoxes à la Pâque qui montent. Voilà.
Alors, c'est rude, hein.
J'étais entre des scolopendres et des orthodoxes qui se déplaçaient à genoux en train d'essayer d'écrire sur la guerre de Troie. Ouais. Ça a été un mois difficile, psychiquement, pour la stabilité psychique.
En tout cas, ça donne un joli recueil. Un été avec Homère, Sylvain Tesson. Voici Tanguy Passureau qui m'a fait un coup. Je le dis haut et fort, Laurent Delahousse est parfait.
Oui, il est beau. Il est beau, il a un regard tellement de velours qu'on a envie de le porter comme pantalon. Et il y a plus de nuances de couleurs dans ses cheveux qu'un toucan n'en a sur ses plumes. Delahousse, c'est la perfection. Si nous étions des meubles, il serait une table basse roche Beaubois en marbre. Et nous serions des guéridons Ikea assemblés à la colle qui pue. Si j'étais Delahousse, je passerais la journée dans les WC de France Télé à me regarder dans le miroir. Et je dirais à Julien Bugier s'il entrait, ça va Quasimodo, tu viens te recoiffer pour tenter de ressembler à Bibi? Mais je suis imparfait, comme nous tous ici, y compris les gens du public. Car Dieu a bossé 6 jours sur Delahousse, le 7e s'est reposé, et ensuite il n'avait plus de temps pour nous. Bref, c'est le mec ultime, et ses interviews sont toujours sensuelles. C'est le seul type de l'info qu'on garde avec une boîte de Kleenex pas loin. Même s'il reçoit Gérard Jugnot en pull camionneur, il est tellement en demi-sourire qu'à la fin ça fait des sourires complets. Et il lui dit « Bonsoir Gérard, je sens une émotion particulière dans vos yeux. Ce pull, allez, est-ce un choix ?» ou un appel au secours. Et l'autre qui se dit « Mon Dieu, je vais jouir !» Parce que se retrouver face à Delahousse, c'est pareil que d'être devant son écran d'ordi à mater pornhub.com. Sauf qu'au 20h, il est interdit d'être en slip. Eh bien, est obligé de penser à un truc triste pour se retenir, comme les bronzés 3. Bref, dimanche, Laurent Delahousse recevait les Parisiennes, groupe composé de 4 dames, soit 4 de plus qu'il y en a dans Pink Floyd. Alors, il y a Ariel Dombal, la chanteuse perchée qui vieillit pas, Elena Noguera, Maréva Galanteur, une Tahitienne qui en a eu marre du soleil et des plages plantes, et qui un jour s'est dit « J'aimerais bien voir le périph', je suis sur la ligne 13, je vais kiffer » et Ina Modja. Donc là, Delahousse se dit « Je vais parler de leurs origines. Elles viennent toutes d'un coin différent du monde. Youpi, vivre ensemble, Benoît à mon style, hashtag la fille d'un arc-en-ciel. » Donc il se dit « Elena, vous venez de Belgique, Ariel de l'espace, Maréva de Tahiti. Hein, » c'est cette île où des filles à poil attendent qu'il pleuve pour se doucher. J'ai vu ça il y a 20 ans dans un très très court documentaire. Et Ina, et là c'est le trou. Et un trou de Delahousse, ça fait pareil que pour nous. Il a beau être superbe, on a tous les mêmes trous.
Donc en clair, en direct, il oublie le pays d'origine d'Ina Modja.
Oui, alors qu'elle est née au Mali, à Bamako, un lundi, hein, parce que le dimanche c'est jour de mariage, donc tout le monde fait la fiesta. Et là, Delahousse dit, vous êtes née en Afrique, parce qu'il a une micro-hésitation. Modja répond, oui, à Bamako. Il passe à autre chose, se touche les cheveux, du jojoba se met à flotter dans l'air, et la magie revient. Franck Provost devant sa télé a le corps à 60 degrés. Mais sur Twitter, des internautes indignés pléonasme. L'accuse de racisme. La chanteuse étant noire, ils se disent « Ce mâle blanc a beau avoir la crinière d'un lion, pour lui l'Afrique c'est un seul grand pays, pendons-le avec ses tripes ce fils de hyène. » Enfin les discours mesurés qu'on a sur Twitter. Alors que ce n'est rien du tout, parce que si Delahousse reçoit Nicole Belloubet, il ne retrouvera même pas son nom. Alors Ina Modja en personne hier a dû défendre sur Twitter Delahousse. Elle l'a fait avant que l'autre soit obligé de préciser qu'il avait un très bon ami noir et qu'en 84 il a dansé le coupé décalé. Dans son tweet, elle dit « Laurent et moi avons longuement discuté du Mali avant, c'était un un oubli. C'est-à-dire que si en coulisses, ils avaient parlé des prévisions météo sur Paris, il était cuit. Donc De Laus n'est donc pas au Ku Klux Klan, il a juste des pertes de mémoire. Il vieillit, hein, mieux que tout le monde, mais il vieillit. Il s'est planté comme un étron. Ça lui donne un côté humain. Si nous étions des meubles, lui aussi serait un guéridon Ikea assemblé à la colle qui pue.
Ouais, moi, je l'embrasse.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Dans la bande originale, on va reparler de cet été avec Homer, évidemment, dans quelques instants, qui a été une série sur France Inter. Je ne sais même pas d'ailleurs si elle est en podcast. Si
elle est en podcast, on la trouve encore.
Parce que c'est ça qui est fort aussi, c'est de réentendre cette lecture. Vous parliez tout à l'heure de l'oralité, de l'importance de déclamer un texte. Je pense que les entendre aussi à volonté et à disposition, c'est quelque chose de très confortable. Et glisser ce petit livre aussi dans sa poche pour s'en inspirer, voire philosopher, parce que c'est l'idée aussi de réfléchir sur soi en le lisant.
Oui, et puis de se demander si...
C'est plus fort que la Bible, vous dites presque.
Je trouve que c'est une manière d'essayer de gouverner son existence, de chercher... Ça répond à la question du destin et de la liberté, de la bonne vie ou de la vie renommée. Enfin, ça donne les grandes réponses à la conduite de soi-même.
Un été avec Homer aux éditions Équateur Parallèle. Sky, Ross, Jega, Richard, ce sont les Mochiba qui sont présents dans ce studio, en tournée tout l'été et à la rentrée en France avec le concert au 13 novembre au Trianon à Paris, puis sinon des festivals comme celui de Saveur Jazz Festival à Segré le 6 juillet. L'album, lui, s'appelle Blaze Away, il ne sortira que le 1er juin, soyez patients. Et sur cet album, il y a It's Summertime, nouveau titre qu'il nous propose en acoustique. C'est pour vous, c'est cadeau, c'est dans la bande originale sur France Inter. Mochiba, Summertime.
Put
Envoûtante de Sky Morcheeba, l'album s'appelle Blaze Away sur lequel il y a It's Summertime. Allez les voir en concert, achetez l'album Blaze Away ou téléchargez-le légalement à partir du 1er juin. Thanks a lot everybody, thanks a lot guys for being our guests. Thank you very much, take care. Merci mille fois. Privilège que de nous avoir eu ce matin et tout l'album est délicieux parce que tous ces mélanges restent quand même avec la sonorité de Morcheeba. C'est envoûtant. J'ai presque envie de partir en Grèce, se mettre
dans un pigeonnier.
Au bord de l'eau avec le soleil, écouter Morcheeba avec un verre de, je sais pas. Ouzo, c'est pas trop mon truc.
Il y a de l'eau dedans, Ouzo.
Ben
c'est
non.
Bien, pas, c'est pas risqué.
Moi, je veux résigner. Je voudrais savoir.
C'est bien ou pas?
Je voudrais savoir, Leïla, ce que toi,
tu bois.
Héléniste, oui. La plus, en tout cas, héléniste de ceux qui sont autour de cette table, a pensé justement de cette vision, de cette, cette analyse, mais de ce pont, de ce lien fait entre l'Iliade 2500 ans, l'œuvre d'Homère et notre vie actuelle, parce que c'est ça qui est frappant, hein, c'est de voir ce miroir.
Et c'est ce qui fait, en fait, ce livre de Sylvain Tesson, votre livre, en fait, il permet de redonner encore plus, je trouve, de puissance à ce texte qu'on a tendance à oublier parce que ça fait en effet partie des bouquins qu'on a dans la bibliothèque, qu'on n'ouvre pas forcément régulièrement. Donc déjà, ça donne envie de se relancer dans l'Iliade et dans l'Odyssée et de la lire avec davantage d'acuité et de se demander dans quelle mesure, là, Laède ne m'envoie-t-il pas un message ou ne me contraint-il pas d'une certaine façon à m'interroger sur qui c'est je suis. Cette notion d'opiniâtreté, de courage, d'hospitalité. On n'a pas parlé de l'hospitalité, mais aujourd'hui, quand on regarde l'actualité, qu'on ouvre le journal du matin et qu'on ouvre l'autre journal qu'est l'Iliade et l'Odyssée, on est en droit de se poser des questions. Comment Ulysse est accueilli pendant son errance? C'est ça qui est fascinant. Comment les gens lui ouvrent la porte? Comment on met tout à disposition de cet étranger? Parce que l'autre n'est pas nécessairement une menace. L'autre peut être porteur d'espoir, d'alliance et d'expansion. Et ça...
On n'a pas eu le temps d'évoquer tout ce qu'il y avait dans le livre, c'est clair. Et
donc, d'ailleurs, merci Sylvain Tesson.
À propos de... Demain, nous recevrons Dany Laferrière, l'académicien, auteur, romancier, et dans son roman, justement, il cite les livres essentiels de sa bibliothèque, dont l'Iliade. Donc le lien est retrouvé, encore une fois, avec notre invité de demain.
Il avait écrit l'énigme du retour, ce qui pourrait presque être un sous-titre de l'Odyssée, Dany Laferrière.
Un livre intelligent qui nous renvoie une image, une réflexion, un été avec Homère, toutes ces qualités que vous n'allez pas retrouver chez Daniel Morin.
Oui, mais évidemment pas. Alors les amis, ça sort bien sûr. Je suis désolé, je ne pourrai pas, comme vous l'attendiez et l'espériez, surtout vous parler géopolitique. Non, je suis désolé, mais pas d'analyse pointue sur la situation à Jérusalem, Téhéran, Washington ou Vesoul. Voilà, c'est comme ça. En même temps, je n'ai pas le choix. Aujourd'hui, nous recevons un écrivain qui vient de faire son entrée dans le Petit Larousse. Je me dois donc
classe
de lui rendre hommage.
Ah ouais.
Bienvenue à toi, Sylvain Tesson. Oui, bienvenue à toi, homme de lettres, érudit parmi les érudits, qui de façon ô combien méritée fait son entrée dans l'univers très clos et hyper sélect des noms propres, reconnus par le dico. Tu rejoins, en compagnie de Neymar, la liste exigeante de tous les grands hommes de lettres et penseurs qui figurent dans le prestigieux ouvrage. Homme de lettres, mais pas que, une bonne place est réservée aussi au dictateur, homme de lettres et dictateur, qui semble être les deux mamelles de Larousse. Du coup, qui dit homme de lettres et dictateur, dit Nagui. Alors, j'ai cherché, le père Albert s'était sûrement trompé. Je suis tombé sur un Nagui, N-A-G-Y. Je me suis dit, si ça se trouve, ils se sont gourés dans l'orthographe. On sait pas, chez Larousse, ils ont peut-être pas le bac. Alors, j'ai quand même lu la définition. Nagui, homme politique hongrois, ça lui ressemble pas, mais ma foi, il est pas à sa près, cet escroc. Alors, je poursuis. Communiste. Non, là, c'est sûr, c'est pas lui. Quel honneur de vous avoir, cher Sylvain. Alors, comment un écrivain de génie s'y prend-il pour écrire des chefs-d'œuvre? Eh bien, on en sait un peu plus sur vous, Sylvain, et les conditions dans lesquelles vous avez accompagné votre plume dans la rédaction de Un été avec Homère, paru chez Équateur, en partenariat avec France Inter, 247 pages, 14,50 €, soit un peu moins de 6 centimes d'euros la va pas, ce qui est ma foi tout à fait raisonnable. Eh bien, selon l'auteur, Sylvain Tesson s'est retiré sur une île des Cyclades, au bord de la mer Égée, dans la lumière, l'écume et le vent. Homme de lettres et petit malin, Sylvain. Tu es écrivain, tu as envie de vacances, mais tu ne veux pas dépenser une thune, pas de problème. Appelle les éditions Équateur, demande un partenariat France Inter, dis-leur que tu veux absolument écrire un livre avec eux, mais que tu as besoin de te rapprocher des décors du sujet, quand ton imagination a besoin d'alimentation sensorielle. Bref, de voyager, tu seras financé pour aller écrire ton bouquin. Ah là là, quand l'éditeur est généreux, c'est génial. Allô, les éditions Équateur ?
Oui ?
J'ai très envie d'écrire un livre sur l'enfer de la nuit qui se transforme en paradis le jour, l'été à Ibiza. Mais j'aurais besoin d'aller m'imprégner de l'atmosphère sur place au Baléares. Vous êtes intéressé ?
Oh, mais oui, absolument, hein. Si vous signez avec nous, on finance le voyage.
Super, mais si en plus vous pouviez me garantir 3 mois dans une villa avec budget sorti illimité et que mon travail de fiction repose sur des bases aussi solides qu'incontournables, eh bien, ça rendrait mon livre irréprochable de rigueur. Vous croyez que vous pouvez m'assurer tout ça ?
Oh, mais grâce à notre partenariat avec France Inter, je vous garantis une assistance financière outrancière, c'est sans problème.
Et si tout ça pouvait se passer dans des conditions de grand luxe, la qualité de mon ouvrage ne serait que plus grande.
Mais c'est la moindre des choses, nous sommes au service de nos auteurs. Hein. Je vous attends pour signer le contrat.
Super. On en profitera aussi pour parler d'un projet qui me tient à cœur, que j'aimerais beaucoup développer avec vous.
Oui.
C'est une intrigue policière qui se passe aux Caraïbes et j'aimerais beaucoup l'écrire cet hiver, du 20 septembre au 15 février. Je n'ai qu'un mot à dire, Sylvain. Bravo.
Merci. La bande originale avec Nagui.
Sur quel projet allez-vous travailler, Sylvain ? Est-ce que vous avez déjà...
Sur quel continent allez-vous partir ?
Oui, voyage ou pas d'ailleurs. J'ose plus parler de voyage parce que Daniel Morin vient de faire.
Non, je m'apprête à écrire un livre sur un animal qui est la panthère des neiges, que j'ai été voir au Tibet au mois de février dernier, en plein hiver, sur le plateau tibétain. Et je suis allé faire des affûts avec un grand photographe qui s'appelle Vincent Meunier. Et nous sommes planqués dans les rochers pour essayer d'apercevoir la panthère. Et on l'a vue. Il en reste quelques-unes.
Elle est en danger, parce que j'allais dire.
Oui, elle est en danger absolu. Elle est menacée, elle est chassée, elle est braconnée. Mais il y en avait quelques-unes. Et puis Meunier, qui est un des plus grands photographes animaliers vivants, sait lire un paysage pour qu'elle apparaisse et il sait se disposer pour la trouver. Alors on en a vu quelques-unes et c'est une apparition, c'est un saisissement. C'est comme une déesse grecque, en plus velue.
Bon, ça dépend.
Sylvain Tesson signe un été avec Omer. Merci Sylvain d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à Mortimer d'avoir été en live. Demain, Dany Laferrière sera notre invité avec Shake Shake Go. Pour la partie live, voici les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Bonjour Philippe.
Oui, salut Nagui, bonjour tout le monde.
Salut Philippe.
Et bonjour.
Il y a un drôle.
Non mais parce que je parlais, j'étais pris de court et je parlais avec
Bruno. Il parlait avec moi et je le fais beaucoup rire, voilà, c'est comme ça. Ouais.
Vous laissez... Et bonjour à Sylvain. Alors je ne sais pas dans quel pigeonnier tu étais, parce qu'il y en a 1000 à Tinos.
Oui, j'en ai choisi un qui était un peu en ruine. Je ne peux pas te dire exactement le numéro, mais j'ai l'adresse. D'accord. Donc tu me dis et puis je t'indique à la route.
Et on peut croiser Vassilis Alexakis de temps à autre.
Oui, on peut le lire. Hein.
Merci les amis.
Ok.
Voilà, c'est tout.
Bon, je vais faire un baby-foot. Moi.
Ouais. Non, un jus de citron. Attends, le zoo, c'est pour nous. Oui. Salut les amis.
Ciao. Salut.